Lizzie présente L'homme de Constantinople de José Rodríguez dos Santos, lu par Pierre Lognier. Chacun accomplit le destin qui lui incombe et désire le destin qu'il désire. Il n'accomplit pas ce qu'il désire, ni ne désire ce qu'il accomplit. Fernando Pessoa. À la Fondation Gulbenkian, pour tout ce qu'elle nous a donné. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, ce roman s'inspire de faits réels. Prologue. Personne n'oublie le jour de la mort de son père. C'est, dit-on, le moment où nous devenons adultes et où l'avenir, telle la clé d'un manoir dont nous sommes enfin l'héritier, nous est confié. Nous feignons d'assumer la vie comme si nous étions maîtres de notre destin, mais un orphelin n'attend rien, si ce n'est la solitude de ceux qui se découvrent livrés à leur sort. J'ai personnellement vécu cette tragédie lors d'un étrange voyage, par une de ces après-midi où tout semble survenir en même temps, comme si Dieu s'amusait avec notre malheur, nous retirant d'une main ce qu'il nous donne de l'autre. La vie nous réserve parfois de telles surprises. Les années filent comme si nous étions anesthésiés, ou comme si nous étions des somnambules errant dans un rêve dont nous discernons à peine les contours, égarés dans un labyrinthe dont les mystères hantent les sentiers qui s'ouvrent devant nous. Soudain, comme par enchantement ou peut-être par un déconcertant tour de passe-passe, les événements s'accélèrent et tout se précipite. C'est ce qui s'est passé le jour où je suis entré dans cet hôtel de luxe, installé dans un palais perdu aux confins de l'Europe occidentale. Tel un animal aux abois, je traversais le hall, anxieux et déprimé, tendu vers un avenir qu'intuitivement je devinais incertain. Le voyage jusqu'à Lisbonne avait été éreintant, et quand je pus enfin me laisser tomber sur le canapé, après avoir parlé au médecin et être monté au premier étage observer mon père mourant, j'eus l'impression que je ne serais plus capable de me lever, tant les coussins étaient doux et tant je me sentais exténué. Je regardais autour de moi pour m'imprégner de l'atmosphère sereine de l'hôtel. Le grand salon était décoré avec goût, comme toujours, mais ce qui m'émerveilla le plus, je dois l'admettre, ce fut l'épais tapis dans lequel mes pieds s'enfonçaient avec un plaisir infini. Tandis que je sirotais un whisky que j'étais allé chercher au bar pour me forcer à me détendre, je laissais mon esprit vagabonder en repensant aux événements des dernières 24 heures. Tout avait commencé lorsque j'avais reçu le télégramme m'annonçant que mon père avait fait une syncope à Lisbonne. Bien que pleinement conscient qu'à son âge, un problème de ce genre pouvait survenir à tout moment, cette annonce eut pour moi l'effet d'un électrochoc. Envisager, de manière abstraite, la possibilité d'un tel accident est une chose, sa survenue effective en est une autre. On découvre alors que l'on n'y est jamais vraiment préparé. Après l'arrivée du télégramme, des images morcelées se mirent à flotter pêle-mêle dans ma mémoire, comme des feuilles sèches que le vent d'automne emportait en tourbillons successifs. Je me rappelle vaguement être allé à Piccadilly, acheter à la hâte un billet de la BOAC, puis la course effrénée dans ma Morgane jusqu'à l'aérodrome de Croydon, le vol interminable de 6 heures au-dessus de l'Atlantique, l'atterrissage chaotique du De Havilland sur la piste à Lisbonne, les couleurs des maisons que la lumière limpide de la ville rendait joyeusement criarde, les visages inquiets qui m'accueillirent à l'hôtel Avise, le visage placide et impassible de mon père étendu sur le lit. Il était mourant, mais semblait endormi. Une main amicale me serra l'épaule et me ramena au salon de l'hôtel. « Alors, mon cher, » me demanda une voix féminine sur un ton maternel. « Ça va ?» Je tournai la tête et reconnus la silhouette voûtée de Madame Dupré. Elle avait les traits fatigués de quelqu'un qui ne dormait pas depuis plusieurs jours et me donna l'impression d'avoir considérablement vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue, près de 3 ans auparavant. Était-ce dû à la fatigue ou au choc ? Toujours est-il que Madame Dupré avait plus de 80 ans, et la seule véritable question était donc de savoir d'où lui venait l'énergie qui l'animait encore à un âge si avancé. Cependant, quelle qu'en fût la source, sa vitalité s'était manifestement éteinte. Il n'en subsistait qu'un éclair diffus, comme le halo du soleil dans la langueur mourante du crépuscule. « Je ne m'en remets toujours pas, » confessai-je. Vous avez du nouveau ? La vieille Française secoua la tête, une tristesse résignée dans le regard. Hélas, non. Madame Dupré s'installa dans un fauteuil à côté de moi, avec des gestes doux et mélancoliques. Son corps d'une infinie fragilité, tel un spectre sur le point de se briser. Lui est-il arrivé de reprendre connaissance ?
Au début, oui.
Selon le médecin, c'est un type de coma inhabituel, comme si la conscience s'éveillait puis s'éteignait successivement. Mais les moments d'éveil deviennent de plus en plus courts et espacés. Son regard se posa sur moi et sembla se rallumer par moments, comme la flamme ténue d'une bougie qu'un souffle soudain ranime.
C'est pourquoi il faut que tu sois près de lui s'il se réveille encore. Saisis chaque seconde, savoure chaque mot, garde chaque regard. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion, tu comprends.
Je hochai la tête, parfaitement conscient que si je parvenais encore à parler à mon père, ce serait probablement pour lui dire adieu. D'ailleurs, le médecin portugais m'avait déjà informé de la gravité de la situation, soulignant que cela n'était plus du ressort de la médecine. Si je nourrissais encore quelques illusions sur le véritable état dans lequel il se trouvait, je les avais totalement perdues au cours de cette conversation. « Ces derniers temps, » demandai-je soudainement, « a-t-il parlé de moi ?» Madame Dupré secoua la tête.
« Comme tu le sais, ton père n'était pas très expansif, »
murmura-t-elle les yeux baissés.
« Mais sache que votre dispute l'a laissé très abattu. Il n'a plus jamais été le même. »
L'usage qu'elle fit de l'imparfait pour évoquer mon père résonna amèrement en moi, comme un requiem anticipé. Il donnait l'impression qu'elle avait déjà renoncé à lui et s'était résignée à l'inévitable. La personne la plus éprouvée, sans doute parce qu'elle avait vécu l'événement de près, était bien Madame Dupré. Bien que je fusse le fils, je me surpris à essayer de la réconforter et à lui faire voir que la vie est un voyage avec un début et une fin. Mon père était arrivé au bout du chemin. Nous devions nous y préparer et accepter l'issue fatale. Elle pleura à côté de moi, dans le salon de l'hôtel Avise, les pieds enfoncés dans le tapis douillet, ses mains couvrant son visage inondé de larmes. Je n'ai pas honte de dire que je pleurais, moi aussi. Puis nous plongeâmes dans le mutisme réconfortant de la résignation et tentâmes d'oublier notre chagrin, moi avec un autre whisky, elle avec un verre de Porto. Tout se passa alors à une vitesse vertigineuse. Les événements commencèrent à se précipiter lorsque, une heure plus tard, un employé de l'hôtel s'approcha de moi et m'annonça qu'on me demandait à la réception pour un appel téléphonique. « De l'étranger !» précisa-t-il avec une pointe d'urgence dans la voix, comme s'il n'y avait rien de plus important qu'un appel « de l'étranger ». J'en fus surpris car peu de gens savaient où je me trouvais et les appels internationaux étaient plutôt rares. Mais toujours est-il qu'on me demandait au téléphone et je me devais d'y répondre.
Monsieur Sarkisian ?
Demanda une voix à l'autre bout du fil avec un curieux accent, peut-être d'Europe centrale.
Krikor Sarkisian ?
Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?
Mehmet Bey.
On entendait très mal. Il y avait de la friture et des grésillements, et la voix semblait provenir du fond d'un long tunnel, probablement d'une ville lointaine de l'autre côté de l'Europe. Qui ?
Mehmet Bey, le contact de votre père à Istanbul.
Un Turc. Depuis mon plus jeune âge, j'avais appris à me méfier des Turcs. Ces gens m'avaient fait tellement souffrir que je n'avais aucune sympathie pour eux. C'est pourquoi je fis montre d'une certaine réserve. « Ah, comment allez-vous ? » le saluai-je d'une voix froide. « Que puis-je faire pour vous ?»«
Je l'ai trouvé !»
s'exclama-t-il sur un ton étrangement triomphant, presque euphorique.
« Je l'ai trouvé !»
Je n'oublierai jamais ces mots venus de très loin et qui me parvenaient comme un murmure affaibli. Aujourd'hui encore, je les entends dans mes oreilles. Un doux écho figé par le temps. Pour être honnête, je dois avouer qu'au début, je n'ai pas compris. Tant d'années s'étaient écoulées. Pensant que M. B était l'un des hommes engagés par mon père pour découvrir des œuvres d'art aux quatre coins de l'Europe, j'ai imaginé qu'il faisait référence à un objet quelconque qu'il avait déniché dans un marché d'Istanbul, un tableau, une pièce ancienne, un tapis persan inestimable ou un vase chinois.
« Vous l'avez trouvé ! » « Désolé, mais je n'ai pas la tête à ça en ce moment. »
Nous crions à présent tous deux dans le combiné, en un effort insensé pour nous faire entendre, l'un et l'autre étant à chaque extrémité du sud de l'Europe.
« Vous vous rappelez qu'il y a une quarantaine d'années, votre père et le mien avaient fait engager des recherches pour retrouver une dame disparue ?»
insista l'homme à l'autre bout de la ligne.
« Eh bien, je l'ai retrouvée.